Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission hebdomadaire Parole au présent. Claude Julien avec vous, avec Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous regardons ensemble le texte évangélique qui sera proclamé en cette fin de semaine. Le texte est au chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule de gens de la ville accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut remué aux entrailles pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, réveille-toi. » Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Alors, Francine Robert, on est en présence de deux cortèges, finalement. D'une part, cortège funéraire d'une pauvre veuve qui va, où on amène le garçon mort au cimetière, et d'autre part, Jésus et ses disciples.
Oui, qui viennent vers la ville, ainsi qu'une grande foule. C'est très visuel, hein, comme mise en scène. On pourrait voir juste à la sortie de la ville...
Une scène facile pour un cinéaste,
absolument,
d'après moi.
Absolument, et probablement intéressante à tourner. Ou t'as un cortège, probablement assez de bonne humeur. Hein, les gens qui sont avec Jésus, ça va bien. Et de l'autre côté, un cortège où les gens parlent pas, où il y en a qui pleurent, c'est triste. C'est finalement la vie qui croise la mort, hein. Et c'est dans une zone entre deux. C'est pas dans la ville, on est déjà sorti, puis c'est pas encore la campagne.
C'est ça, c'est vous avez raison, c'est près de la porte de la ville.
Voilà.
Donc c'est aux confins, à la limite, quoi, de la campagne et de la ville.
Oui, et je dirais, donc, dans cette zone tampon où, finalement, la vie est toujours côtoyée par la mort. Hein. Dans la vraie vie, on vit. On ne pense pas aux événements de mort, sauf s'ils nous arrivent, mais on côtoie toujours la mort. La vie et la mort, ça se côtoie dans cette zone entre deux. Je pense que pour Luc, c'est pas absent de sa perception des choses. Et d'ailleurs, on va voir, Claude, que même si Jésus ici va relever un mort, la mort, elle n'est pas abolie, elle n'est pas niée par le récit.
Bien. Alors... si on mettait maintenant la caméra sur la femme, hein, c'est une figure extrême de dénuement, surtout à l'époque. Hein, les veuves, c'était déjà des personnes très, très, très vulnérables. Et son fils unique, elle perd tout, là.
Elle perd tout. Elle perd tout statut social, toute protection, et même source de revenus, sauf si elle a déjà des revenus de famille, mais... non, c'est son identité sociale. Hein. C'est clair que c'est un dénuement affectif extrême, comme vous dites. Mais elle n'est plus rien dans ce monde d'hommes, finalement. Elle n'est plus rien.
Non seulement elle pleure son fils, mais elle pleure sur elle-même, si on peut
tout
dire.
À fait. Et donc, Luc nous invite, si on est dans l'autre cortège, je dirais, nous invite à voir et à ressentir cette détresse-là. Je signale, j'aurais dû le dire dès le début, Claude, que c'est un récit qui est propre à Luc. Hein. Et la compassion, c'est un thème majeur pour lui. Et il s'intéresse aussi particulièrement aux femmes. Dans son évangile, il y en a plus qu'ailleurs. Et aux veuves. Pensez à la prophétesse Anne au temple. On se rappelle toujours Siméon. On oublie souvent cette veuve qui vit au temple et qui, elle aussi, reconnaît le Messie en Jésus. On pense, Jésus à Nazareth parle de la veuve de Sarepta qui a été aidée par le prophète Élie. C'est notre première lecture de ce dimanche. Il donne une veuve en exemple dans une parabole au chapitre 18. Exemple de prière sans relâche. Les textes que je viens de vous mentionner sont tous des textes propres à Luc. Donc, ça dit son souci.
Voilà. Et là, après ça, bien, on tourne la caméra sur la personne de Jésus. Hein. On fait en anglais close-up, là, sur la figure de Jésus.
Ouais.
Et je voudrais être cinéaste, moi, pour prendre ça.
Je vois ça.
Hein, le regard de Jésus. Hein. L'évangéliste dit bien en la voyant, hein, le voir. Ouais. Le Seigneur fut remué aux entrailles. Il y a le voir. Et ensuite, le fameux verbe, j'aimerais ça que vous le commentiez, ce verbe grec, il est tellement important.
Oui. Le voir, d'abord, vraiment le lien est étroit entre « en la voyant, le Seigneur fut pris aux entrailles hein. ». C'est par le regard que la souffrance de l'autre entre en lui. Je le signale parce que, mon Dieu, que c'est toujours tentant, Claude, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, de détourner. Les yeux, hein, devant des souffrances auxquelles on peut pas faire grand-chose, finalement. C'est comme si la détresse de la femme entre dans Jésus par ses yeux. Et ça l'atteint au ventre. Alors, ce mot que vous aimez, que j'ai traduit ici, « remuer aux entrailles », ce verbe « splagnidzomai », qui est fait avec le nom « splagnon » pour les entrailles. Ça désigne vraiment les entrailles. Et les entrailles sont considérées dans le monde biblique et dans le monde grec aussi bien comme le siège des sentiments intenses, des émotions fortes. On met ça dans le cœur, nous autres. L'Antiquité juive et grecque mettent ça dans le ventre, les émotions fortes.
Pour ça qu'on n'exagère pas en disant c'est le coup de poing. C'est le coup de poing dans le ventre.
Tout à fait.
C'est pas une perception intellectuelle.
Voyons
quelle pauvre femme, faudrait peut-être faire quelque chose ou qu'est-ce que je vais faire. Jésus est vraiment là en état de choc.
Bouleversé, on pourrait dire.
Ouais.
C'est vraiment une émotion forte et c'est cette expression rare chez Luc. Et ailleurs aussi, elle est rare. Hein? Marc aussi s'en sert parfois pour Jésus. Luc l'utilise dans son évangile pour le bon samaritain. Hein? Voyant le blessé, c'est le même pattern. Voyant le blessé, il fut remué aux entrailles ou bouleversé. Et il décide de l'aider. C'est Jésus qui met en scène ce samaritain dans une parabole. On est au chapitre 10 de l'évangile de Luc.
Ouais.
Une autre parabole, c'est le père du fils prodigue qui voit encore là, le regard. Qui voit son fils venir de loin et il est bouleversé.
En somme, c'est une émotion, ça nous arrive tous. Hein. À un moment donné, là, il y a quelque chose de triste qui arrive et c'est incontrôlable. Hein, c'est une émotion qui monte et qui vous rend muet, qui vous étouffe. Là. Et ce que l'évangéliste applique à Jésus, ça parle de Dieu, ça.
Oui, Luc, ici, il l'appelle le Seigneur. En la voyant, le Seigneur fut remué aux entrailles.
Ah, si vous avez raison.
C'est intéressant. On se dirait, c'est vrai que Jésus, il est tellement humain, hein.
Ouais.
Ah, il a du cœur, puis ça lui fait de la peine, puis c'est bien. Mais c'est pas Jésus de Nazareth seulement, c'est le Seigneur qui est mis aux entrailles. Et Luc va utiliser cette expression des entrailles de compassion. Il va l'utiliser pour Dieu lui-même. C'est dans le Cantique de Zacharie. C'est au chapitre 1, les versets 78-79.
Qui est la prière du matin dans Aux Bréviaires. Hein? Béni soit le Seigneur Dieu qui a visité son peuple grâce aux entrailles de compassion de notre Dieu, si on traduit littéralement.
Oui, vous allez souvent lire plutôt au sentiment de compassion, au sentiment de miséricorde. C'est vraiment le mot entraille, le nom qui est là. Et ça fait drôle de penser que Dieu a des entrailles. Je me rappelle en avoir parlé aussi au dimanche de la Sainte Trinité.
Oui.
Il y a à peine deux semaines. Oui. Et si on continue le cantique de Zacharie, on voit « L'astre d'en haut nous a visités ». Ça, c'est la finale de notre récit. Les gens disent, à la fin du récit de la résurrection du fils, de la veuve, Dieu a visité son peuple.
Vous avez raison. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Voilà. Donc, on a deux traits de notre récit qui sont presque mot pour mot dans le cantique de Zacharie. Et ce cantique de Zacharie se termine par « pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort ». Si ça, c'est pas la veuve, je sais pas c'est qui.
Ben, voilà.
Ça nous dit quoi, moi, je pense? Ça présente le Seigneur et là, le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, qui est engagé dans une relation très personnelle, l'émotion, le geste et la parole. Et dans l'émotion de compassion pour nos malheurs, il y a la miséricorde ou la compassion de Dieu, finalement. Le Dieu qui est présenté par Luc, il est compatissant et toujours vulnérable à nos ténèbres et à nos morts. Et donc, il nous visite, il s'approche, il s'avance, il nous voit, il ne détourne pas le regard, il voit nos tristesses.
Donc, il voit, il est bouleversé et il parle.
Oui,
il parle.
Il
que va-t-il dire?
Alors, Jésus va dire à la femme, « Ne pleure pas. » Ça rappelle tout à fait la béatitude, « Heureux, vous qui pleurez, vous serez consolés. »
Ah ouais.
C'est au chapitre 6, le verset 21. Et ensuite, Jésus ordonne aux morts, « Réveille-toi. » Je signale juste en passant, « Réveille-toi », c'est un des deux verbes qu'on utilise aussi dans le grec pour dire la résurrection.
Mais oui, parce que le verbe « ressusciter » n'existait pas en grec.
Non, hein? C'est ça. Il n'existait pas vraiment en français. On l'a créé.
On l'a
c'est
créé.
« Ressusciter » ou « re » tirait lever.
Ah, c'est, donc, les deux verbes, c'est réveiller et lever.
Et relever. Mm-hmm. C'est sûr que, de toute manière, on ne devrait pas parler de la résurrection de ce garçon-là, puisqu'il va remourir.
Il va mourir à nouveau.
Ben oui, c'est sûr, comme Lazare, comme la fille de Jaïr.
C'est ça.
Et alors que quand on parle de la résurrection de Jésus et de la nôtre, au-delà de la mort, on parle d'entrer dans la vie définitive, la vie éternelle de Dieu. On va pas mourir une autre fois.
C'est
donc,
ça.
On devrait pas parler de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. On devrait parler du réveil.
C'est ça. Il le sort du sommeil de la mort, si on peut dire. Et là, ce que je remarque, c'est que l'évangéliste ne dira pas « le jeune homme s'assit et se mit à parler ». C'est « le mort ». Vraiment, « le mort s'assit et se mit à parler ».
Oui, hein?
Ce qui est un peu... c'est
ambigu.
Comme un petit peu surprenant,
ouais,
ça.
Oui, c'est
hein?
un peu ambigu.
Le mort s'assoit et se met à parler.
Bon, alors, on me dit... Peut-être que c'est une manière de bien nous rappeler que la mort, elle n'est pas niée, elle n'est pas abolie, elle est simplement combattue. Et ici, dans ce récit particulièrement, elle est retardée.
Elle demeure présente.
Elle demeure présente.
C'est ça qui est...
Oui, elle est en nous, elle fait partie de la vie. Et donc, le mort s'assit et se mit à parler. J'aime pas trop quand on règle les choses rapidement en se disant, il n'y a plus de mort, c'est la vie. Ben non, Dieu propose une vie en plénitude, ça n'est pas une négation de la mort. Ça va au-delà de la mort.
Oui, on règle parfois trop vite. On dit, bon, ben, il est mort, ça veut dire qu'il est ressuscité. Mais attention, tous ceux et celles qui restent, là, puis qui sont dans le deuil, puis qui souffrent.
Il y a ça aussi, oui. À quoi je viendrai d'ailleurs? Bon, le mort se met à parler.
Une manière de dire qu'il entre en communication.
Oui,
quoi.
Tout à fait. Ça, c'est bien intéressant. Donc, c'est plus que le corps, c'est la relation qui est rétablie. Et c'est d'autant plus important que Jésus, c'est par la mère qu'il a été touché. Il n'a pas été bouleversé en se disant « c'est donc de valeur, ce jeune homme, il avait une si belle vie devant lui ».
C'est vrai.
Il a été touché en se disant « mon Dieu, cette femme, elle réduit à rien, elle n'a plus personne ».
C'est ça.
Quelle tragédie.
Ouais.
Alors, il lui redonne son fils.
Ouais, vous avez raison. Il est ému en regardant la vivante qui est dans les qui souffre et non pas en regardant le mort.
Exactement. C'est intéressant de vous m'amener à une des réflexions que je voulais faire sur la place de la mort dans ce récit, et donc pas seulement réfléchir sur la résurrection, mais la mort. Il n'y a pas beaucoup de récits de relèvement d'une personne morte dans les évangiles. Il n'y en a que trois. Il y a celui-là, le garçon de la veuve de Naïm. Il y a la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. C'est raconté trois fois, mais ça compte pour un. Et il y a Lazare, bien sûr, qui a ses deux sœurs. Donc, c'est rare. Et c'est une des manières, je pense, de rappeler que Dieu ne supprime pas la mort. Et je le redis, le Fils va devoir mourir encore un jour, la fille de Jaïr aussi, et Lazare, et Jésus aussi. Quand on lit ces récits-là, alors, si jamais ça vous intéresse, on est dans Luc au chapitre 7, avec la fille de Jaïr, on est dans Marc au chapitre 5, et avec Lazare, on est dans Jean au chapitre 11. Lorsqu'on lit ces récits, on s'aperçoit que Jésus s'intéresse moins à la personne qui est morte qu'au chagrin ou à la détresse des gens qui sont touchés par la mort d'un proche. Dans le récit de la mort de Lazare, Jésus s'occupe de Marthe, elle lui fait des reproches, il essaie de l'amener plus loin, il la fait réfléchir. Après, il voit Marie en larmes, donc la sœur de Marthe, puis là, il frémit en dedans de lui. C'est finalement rien que quand il va être en face du tombeau qu'il va être atteint par la mort de Lazare. Ce qui semble l'atteindre, c'est, je dirais que c'est comme si la mort de nos proches fait mourir quelque chose en nous. Mm-hmm. Les récits, et là c'est pas que Luc, puisque c'est pareil dans Marc et Jean, les récits de réveil des morts portent l'attention sur ces personnes qui sont encore en vie, mais en qui il y a une zone de mort. Des personnes vivantes en qui la mort vient d'entrer, si je peux l'exprimer ainsi. C'est comme si la mort de nos proches attaque notre goût de vivre.
Il y a quelque chose qui meurt en nous. C'est pas juste une réalité qui est à l'extérieur de nous. Il y a une partie de nous qui meurt lorsque quelqu'un qui est proche de nous meurt.
Oui. Et aussi, ça rend difficile de croire au Dieu de la vie.
C'est ça. Voilà.
Alors, à terme, ça peut même nous éloigner de Dieu ou nous faire douter de lui. Donc, ça veut dire que la mort, là, c'est pas juste la mort rendre l'âme, là, puis notre dernier soupir. Il y a toutes sortes de morts qui nous habitent, au fond. Et c'est à ces morts-là que Jésus réagit dans les récits de relèvement des morts. Il réagit aux vivants qu'il cherche à revitaliser, on pourrait dire, à leur donner un surplus de vie là où la mort est en train d'entrer en eux. C'est bien, vous savez, parce qu'on pourrait se dire, moi, je peux pas faire ça, relever des morts. C'est vrai. Mais je peux peut-être relever des zones en train de mourir chez des gens que je connais qui sont envahis par la mort de leurs proches, par exemple. Vous voyez, c'est autre chose. C'est moins spectaculaire que Jésus, je vous l'accorde, mais c'est pas dehors de nos capacités, ça.
Toute l'importance, effectivement, d'encadrer, de soutenir, d'être proche, de soutenir, de conforter quoi des personnes qui perdent...
D'accepter qu'elles en parlent.
Oui.
Ouais, au lieu de dire, bon, ben ça fait un an, là, tu pourrais passer à autre chose. C'est pas si simple. Là. Bien, je ferme la parenthèse là-dessus. C'était la première réflexion que je voulais proposer. Il y en a une autre réflexion sur la mort que j'aimerais proposer, Claude. Et c'est en faisant des liens avec le prophète Élie. D'abord, notre récit qui se termine avec...
Un grand prophète s'est levé parmi nous.
Alors, un grand prophète est levé, c'est une expression dans la littérature juive qui renvoie au prophète Élie. Et on sait que Luc aime faire des liens entre le prophète Élie et Jésus vu comme prophète. Il y a plusieurs ressemblances, peut-être on s'en est rendu compte, entre le récit de Luc et la première lecture, qui est le récit sur Élie. Il relève le fils unique d'une femme qui est veuve. C'est au premier livre des Rois, au chapitre 17. Alors, c'est raconté de la même manière. Luc raconte, en s'assurant que les gens font des liens avec l'expression « il le rendit à sa mère ». C'est mot à mot ce que le récit sur Élie dit aussi. « Il le rendit à sa mère ». On s'en doute que Jésus n'est pas parti avec le garçon, là.
Bien sûr.
Alors, si Luc le précise, c'est vraiment pour que ça ressemble le plus possible au récit d'Élie tel qu'il est écrit. Donc, Luc nous invite à voir en Jésus un grand prophète qui s'est levé, et dans sa bouche, la parole de Dieu est véridique. C'est très beau cette phrase dans notre première lecture. C'est la femme qui dit cela à Élie. Je vois que dans ta bouche, la parole de Dieu est véridique. Et c'est au sens hébreu du mot, Claude, le vrai véridique, c'est pas seulement vrai réel, mais c'est vrai efficace. Hein.
C'est la parole qui agit, quoi.
Oui, elle réalise ce qu'elle annonce. La deuxième piste de réflexion que je voulais proposer sur l'expérience de la mort, c'est à partir de la question que la veuve dans le récit d'Élie pose. au prophète Élie. Peut-être nous la rappeler, la question?
Oui. C'est « Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils? »
Ouais.
Ah oui, alors ce qu'on voit là, hein, c'est que la mort ou les malheurs sont considérés comme des punitions.
C'est ça. Hein, mon fils est mort, c'est parce que tu as rappelé à Dieu mes fautes. Hein?
C'est ça.
Et donc, c'est Dieu qui l'a fait mourir.
C'est ça.
Voilà, la mort, punition. Et souvent, face à la mort, et surtout la mort violente, ou la mort bête d'un accident de voiture ou d'un pont qui s'effondre ou la mort précoce, la mort d'un enfant, c'est pas évident. On a beau croire en la tendresse de Dieu, là, les questions restent. Hein, Claude, pourquoi? À qui la faute? Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Est-ce que c'est mes péchés? Puis la fameuse phrase, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que ça m'arrive? Ça dit bien qu'il y a quelque part en nous une veuve de Sarepta. Ça, c'est pour être poli, je le dis comme ça, je vais le dire autrement. Il y a toujours en nous un païen qui pense que c'est Dieu qui nous envoie les malheurs par la tête parce qu'on n'a pas été fin.
C'est ça.
Non? C'est une païenne, la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si la veuve de Naïm pensait ça, hein, mais les humains ont tendance à penser ça. Et même Élie, c'est ça qui est intéressant et curieux dans la première lecture. Regardez la première prière que Élie adresse à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Élie?
« Seigneur, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils? » Même Élie est dans la même croyance,
petit,
si on peut dire.
Il y a un petit bout de païen en lui, quelque part. Hein? Bon, il y a des excuses, lui. Il est 9 siècles avant l'Évangile. Nous autres, on est quelques siècles après. On a moins d'excuses. Et Dieu, il se passe rien. Hein? Si on regarde le texte, il se produit rien. Et alors, Élie va faire une autre prière.
« Je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. »
Et là, le récit va dire « Le Seigneur entendit la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui. » C'est comme si Dieu n'avait pas entendu la première prière. Évidemment, Dieu n'est pas sourd, puis je pense pas qu'il soit du genre à entendre rien que ce qu'il veut. Hein? Mais c'est le récit qui ne présente pas la première prière comme exaucée. Cette première prière considère que c'est Dieu qui a donné la mort, finalement. Et alors, si je reviens à l'expression « Dieu a visité son peuple », il me semble que l'intervention de Jésus à Naïm, elle combat cette image de Dieu porteur de la mort qui est là dans la vie de tous les croyants. Quand Dieu visite son peuple, comme la foule le dit dans notre récit de Naïm, quand Dieu visite son peuple, sa visite, c'est pas celle du censeur qui est en train de prendre la liste de nos péchés pour établir les punitions justes. Hein. C'est une proximité qui est, je le redis, à cause du fameux splagnon, les entrailles, c'est une proximité qui est émue par nos détresses. Et là, j'ajouterais donc même la détresse que crée en nous le péché et le sentiment de culpabilité. Hein, péché est réel, sentiment de culpabilité est réel, mais c'est ça qui nous amène à nous tromper sur Dieu et à se dire « Dieu, il est en train de me punir ». Vous voyez, il y a de la compassion, Dieu, même pour cette détresse-là liée à la faute et au sentiment de culpabilité. Et persister à voir la main de Dieu derrière les drames et les morts qui nous arrivent, c'est juste oublier l'appel de Jésus hein, qui nous dit « Devenez compatissants comme votre Père est compatissant ». Il est compatissant. C'est ça la perfection de Dieu chez Luc. C'est pas soyez parfait comme votre Père est parfait. Soyez compatissant. Donc, c'est le Dieu des vivants, le Dieu révélé en Jésus. Il lutte contre la mort en nous, sous toutes ses formes, y compris le deuil, y compris le péché, y compris la culpabilité. Si on revient à la fin du cantique de Zacharie dont on parlait tantôt, il se fait connaître à ceux qui se tiennent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il se manifeste comme le Dieu de la vie ou le Dieu des vivants. C'est ce que, dans la deuxième lecture, Paul va aller proclamer aux veuves de Sarepta de son temps, hein, qui sont les Grecs, les païens. Il était jadis obsédé par la loi, lui aussi, c'est ce que la deuxième lecture nous dit. Faut obéir, sinon on est puni. Mais il a découvert l'Évangile et il va aller proclamer un visage de Dieu différent. Alors, je dirais qu'il y a une fonction missionnaire dans notre récit. On est invité à se joindre à la foule de la finale, dans laquelle on a les deux cortèges du début. et à proclamer cette bonne nouvelle. Dieu nous a visités et produire des bonnes nouvelles dont peut-être les gens pourraient parler dans toute la région aussi. Ça serait bien.
Voilà. Francine Robert est professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Claude Julien qui vous parle et qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.